Nous sommes le jeudi 2 juillet 2026. Il est 21h00. Je veux rien entendre sur Radio Canu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut Romain.
Salut Xavier.
Romain qui n'a pas hésité à braver les 42 degrés plus la chaleur de son ordi pour faire son émission sur Twitch, preuve qu'il ne reculera devant aucun sacrifice pour remplir votre wishlist de jeux sur Steam.
Et vous parlez un petit peu d'actualité aussi.
Salut Bettina.
Bonsoir.
Comment ça va?
Un peu fatigué, comme tout le monde j'imagine, bien claqué de la chaleur.
Oh non, en vrai tu aimes la chaleur. Tu l'aimes tellement. Non. Déjà, elle nous a traité de lâcheurs parce qu'on a annulé les deux dernières émissions. Hein, et elle nous a interdit toute mention aux températures sahariennes de ces derniers jours parce que, je cite, tout le monde a chaud, même Bernard Arnault.
Faux, je n'ai jamais dit ça.
On a une vidéo. Comme chaque semaine, on remercie le collectif Presse F5 qui héberge notre podcast Le Nerf de la Game et Radio Canu pour l'accès au studio. De quoi on va parler cette semaine? Eh ben, on aurait pu tranquillement parler des jeux qui nous ont tapé dans l'œil lors du Summer Game Fest.
Du Steam Next Fest.
Ou du Steam Next Fest aussi d'ailleurs. Et croyez-nous, que ça soit l'un ou l'autre, eh ben, il y en a un paquet. Mais c'est la partie lutte sociale de notre slogan jeux vidéo indé, gros sous et lutte sociale qui a motivé cette émission parce que ces dernières semaines, elles ont été remplies en mauvaises nouvelles pour l'emploi dans l'industrie, dans le monde et la France ne fait pas exception. On va faire le tour de ces différentes news, mais d'abord, on va parler des gens qui développent des jeux vidéo sur Lyon et sa région. Bettina, je te laisse la main.
Merci. Avant de rentrer dans les mauvaises nouvelles, la joie et la bonne humeur, parlons un petit peu des créations de la région. Donc, le premier jeu dont je vais vous parler, c'est Micromega, de l'artiste lyonnais Mani et du studio parisien Coven. Donc, une co-création d'un artiste et d'un studio qui l'accompagne dans le développement de son projet. Donc en fait, Mani déploie ses créations sur différents supports. Il réalise du dessin traditionnel, des fresques, du street art, du collage, du tatouage, de l'animation et puis avec Micromega, du jeu vidéo. Et donc Micromega, en fait, c'est un jeu de puzzle complexe qui prend place dans un univers surréaliste que Mani dessine à la main. Dans un monde mécanique qui s'effondre, une sphère fragile s'élève, ou du moins elle essaie, parce que sa trajectoire se trouve bloquée par les restes de machines complexes et imbriquées. Et donc cette sphère qui monte sans cesse, c'est un peu comme si sa propre gravité était inversée, et donc c'est à nous de lui ouvrir la voie. Merci pour l'air, Xavier. Tu agites l'éventail comme si tu étais mon esclave personnel.
C'est ma seule plus-value dans cette émission.
J'en étais où? Donc oui, on va devoir ouvrir la voie à cette sphère qui monte, comme je le disais. Et donc on va devoir trouver qu'est-ce qui est connecté à quoi, quel mécanisme active quoi, comment débloquer le chemin, etc. Et en fait, il y a des créatures qui peuplent ce monde et elles nous aideront à faire bouger ces constructions étranges et à faire progresser la sphère vers les hauteurs. Et donc les solutions se cachent à des échelles différentes, autant dans les détails foisonnants que dans la vue d'ensemble. Donc Micromega, c'est une aventure verticale qui alterne entre défis de physique et stratégie et met à l'épreuve notre sens de l'observation et notre précision. Donc la date de sortie n'est pas encore précisée, mais une démo est dispo sur Steam si vous voulez l'essayer et n'oubliez pas de l'ajouter à votre wishlist pour donner de la force.
Il me semble que ce jeu, alors au-delà de l'Indie Game Lyon, il me semble que j'avais vu aussi ce jeu dans une des très nombreuses conférences du Summer Game Fest, je sais plus laquelle exactement, mais
peut-être.
Il me semble que je l'avais vu aussi, ah ouais. Ça m'avait... Ouais, ça m'avait...
J'avais fait la démo il y a pas mal de temps maintenant, il y a une démo qui est dispo depuis un petit moment.
Ouais.
Mais ça m'avait étonné de le retrouver pendant le Summer Game Fest, alors je sais plus si c'est genre le PC Gaming Show ou quelque chose, ou Day of the Devs, ou... Non, Day of the Devs, je m'en souviendrai parce qu'il y a toujours une interview avec et tout ça. Donc, mais il me semble qu'il y avait peut-être le Wholesome, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait une des... Alors, attention, hein, au Summer Game Fest, il y a je dirais une entre 10 et 15 10 et 15 conférences.
Non, ouais. 10 et 15 000 jeux présentés.
Oui, oui. Et puis surtout, voilà, il y a 10 et 15 conférences et puis une tétrachée de jeux.
C'est ça.
On aurait pu faire 3 émissions, honnêtement, entre le Summer Game Fest et le Steam NeoFest. On aurait pu faire 3 émissions juste là-dessus.
Tout ce qu'il y a eu.
Ah ouais, il y a des choses vraiment cool en plus. Mm-hmm. Mais il me semble que l'avoir vu dans.
Ah, c'est possible.
Et ça m'avait surpris et surtout grandement fait plaisir pour eux.
Bah oui, carrément. Carrément. Et puis oui, je vais vous parler d'un deuxième jeu, Dog in the Machine, développé par les Grenoblois de Studio Chahut et édité par Goblins Publishing. Dog in the Machine est un tactical roguelite dans lequel on incarne un chien robot cherchant à s'échapper d'une mégalopole dystopique pour retrouver ses maîtres humains en exil. Et donc on va devoir concevoir et apprendre à notre chien des commandes personnalisées pour combattre au tour par tour des robots gardiens. Chaque champ de bataille est rempli de possibilités de réactions en chaîne, avec des systèmes de collision en cascade, des ennemis réactifs, tapis roulant, boutons interactifs, obstacles explosifs, etc. etc. Donc à nous de trouver une solution pour chaque affrontement et anéantir des vagues d'ennemis de façon spectaculaire. Mais avant d'ouvrir les hostilités, on va pouvoir prévisualiser notre séquence de commandes pour voir quels vont être les effets déclenchés et les réactions en chaîne qui vont avoir lieu. Et donc ça c'est cool, pas de surcharge mentale, on peut expérimenter librement jusqu'à trouver une stratégie qui marche ou bien chercher les synergies les plus puissantes. Et puis après, à chaque combat, notre chien apprend une nouvelle commande et on va pouvoir améliorer ses attaques pour déclencher des combos dévastateurs, et on pourra l'entraîner à exécuter des commandes complexes en combinant à chaque fois deux commandes existantes, y compris des commandes déjà combinées. Donc voilà. Pour ça, on pourra suivre des propositions prédéfinies ou inventer nos propres combinaisons pour façonner notre style de jeu et expérimenter les synergies. Le jeu sera dispo pour le troisième trimestre 2026, mais en attendant, il y a aussi une dispo sur Steam si vous voulez l'essayer. Et de nouveau, vous pourrez l'ajouter à votre wishlist pour donner de la force.
Troisième trimestre 2026, ça veut dire maintenant, en fait ?
On a attaqué le troisième trimestre 2026.
Ouais,
bah en gros, maximum la rentrée, quoi.
Ouais,
maximum septembre, quoi.
Ouais. Écoute, j'en sais pas plus. Je vous donne l'info qui est sur Steam en l'occurrence.
Très bien.
On non, mais en plus.
Si c'est affiné ou reporté ou
oui.
Ajusté parce que bon, c'est la fin de la. Enfin, fin septembre, début octobre.
Ouais.
C'est chargé, je sais pas si vous avez fait gaffe.
Ah bon. Ouais, ouais. Bah voilà, ils pourront peut-être décaler.
Je crois qu'il y a un jeu que les gens veulent éviter et je sais pas pourquoi.
Tout le monde veut sortir en même temps.
On en a déjà parlé, c'est très con.
Mais bien sûr.
La conclusion, c'est ça, c'est que tout le monde va sortir en même temps.
Mais oui,
c'est pour éviter de sortir en même temps que.
C'est idiot.
Que tout, enfin bref.
On en reparlera, je pense. Mais oui.
Oui, on en reparlera.
Les petits malins qui vont pas faire comme les autres et qui vont quand même sortir aux alentours de la sortie de GTA 6, bah, ils seront bien contents parce que du coup, il y aura pas beaucoup de concurrence finalement.
Ouais, surtout si tu joues sur ordinateur.
Ouais.
Oui, bah oui, parce que sur ordinateur en vrai.
Bah, GTA 6 sera pas dispo.
Et il sera dispo dans un an sur ordinateur, un truc comme ça.
Ou un an et demi peut-être.
GTA 5, il a mis vachement longtemps.
Pas loin de 2 ans.
Ouais, donc.
Il a mis pas loin de 2 ans.
Si, même les Red Dead, les machins. De manière générale, les gros jeux.
Rockstar.
Mettent longtemps à sortir.
Oui, Red Dead c'était un petit peu différent, mais il y a eu.
Bon, ce qui.
Une historique différente, mais ouais.
Ah là là. Le dernier jeu Rockstar sur CD. Bon, allez.
Bon, Xavier, je te prête mon éventail, du coup. Ça va que j'en ai un deuxième, parce que...
Vous êtes
beau avec vos éventails. Des éventaux.
Des éventaux, exactement. Maintenant que j'ai mon empreinte dessus, il est à moi. Eh bien, merci, Bettina, pour ce journal des bonnes nouvelles.
Ouais.
On va entamer le journal des nouvelles de merde.
Le journal des nouvelles de l'industrie du jeu vidéo.
Voilà, donc c'est bien ce que j'ai dit. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Voilà. Donc, on va commencer par trois noms qui vont vous parler si vous avez suivi les précédentes émissions du Nerd de la Game. Kiloton, Big Bad Wolf et Midgar. Trois histoires différentes, mais un même fil rouge. Le redressement judiciaire de Nakon et la casse sociale qui l'accompagne. Je ne vous referai pas l'historique de pourquoi et comment Nakon est en redressement judiciaire, parce qu'on a des superbes émissions sur le sujet qui sont généreusement hébergées par Presse F5, et je le dis uniquement parce que
tu es forcé.
Julien n'est pas là.
Également disponible
sur Deezer.
Voilà.
Effectivement.
Et des fois Spotify, mais des fois.
Alors celle-là, je sais pas. Ouais. Celle-là, je sais pas, parce qu'on a une streak.
Voilà.
On a une streak de strike, et donc.
On est bien.
On est pas mal. Donc on va commencer par une première étape, les plus locaux des trois que j'ai cités, Kiloton ou KT Racing. Le studio spécialisé dans les jeux de course, basé entre Paris et Lyon, et c'est l'une des victimes les plus visibles de cette restructuration. Comme on en avait parlé, et j'étais allé à leur piquet de grève au moment en fait du redressement judiciaire qui avait été annoncé en mars 2026, après une décision du tribunal de commerce de Lille, dans le sillage des difficultés de Nacon. Et ce sera Nacon et pas Nacon, ce sera Nacon pendant tout le reste de ce papier.
Oui, bah c'est pas mal.
Voilà. Le 13 mai, donc c'est juste après, en fait, je crois qu'on avait fait l'émission le 7 mai, si je dis pas de bêtises, le 13 mai, les 124 salariés ont été informés du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit la suppression de 84 postes. Donc 84 sur 124.
C'est marrant ça comme nom, sauvegarde de l'emploi pour des suppressions de postes.
C'est marrant ça, mais c'est comme si quelqu'un l'avait fait remarquer.
À l'époque,
à quelqu'un. Ouais, enfin, quelqu'un avec aucun tact, vraiment.
Donc la novlangue, donc.
c'est ça. Donc 68% des effectifs, donc c'est un PSE d'une brutalité assez rare dans le jeu vidéo. Hein. Souvent, en fait, on s'embête. Enfin, quand c'est à ce niveau-là, on s'embête pas d'un PSE, on coule la boîte. Donc c'est
presque ce qui est étonnant.
C'est assez étonnant.
Quand on en parle.
Voilà. Concrètement, ça veut dire qu'une large majorité des développeurs, designers, artistes, testeurs voient leur poste disparaître, alors même que des projets comme Test Drive, Unlimited Solar Crown sont encore sur les rails. Et quand je dis le projet, le jeu est sorti, c'est la maintenance du jeu qui est toujours prévue. Sachant que les salariés ont dénoncé pendant des années. Ils ont fait des alertes qui ont été ignorées sur les conditions de travail, sur la désorganisation des productions, sur la débauche d'employés plus récemment pour créer un autre studio qui s'appelle Grid Games et qui a repris la licence WRC qu'assurait Kiloton auparavant. Hein, de façon très étonnante. Là, une fois de plus, je vous renvoie vers
l'émission où on parlait effectivement du choix de certains salariés et pas d'autres.
Oui, voilà. Et en fait, voilà ce qui donne à ce PSE l'allure de conclusion d'un long malaise plutôt qu'une surprise. Malheureusement, voilà, on s'attendait. Et comme tu le disais, c'est presque étonnant qu'on ait un. Moi, je m'attendais à un PSE qui soit moins costaud, en fait. Parce que vu l'ampleur du truc, c'est-à-dire que tu vires 70% des gens. Je vois pas pourquoi tu liquides pas comme Spiders, quoi. Donc voilà. Deuxième cas, et là on passe du plan social à la fermeture pure et simple, Big Bad Wolf. Donc les joueurs le connaissent peut-être pour The Council, qui a mis le studio sur la carte, et plus récemment sur Vampires Masquerade Swan Song. Big Bad Wolf, en fait, c'est une antenne de Cyanide qui a installé à.
Ils ont sorti un jeu aussi très récemment. Hein.
Lequel?
Cthulhu.
Ah oui, Cthulhu, The Last et qui est apparemment pas ouf.
Il est sorti dans les conditions où il a été.
Oui, oui, enfin, pas ouf, mais donc, bon, les jeux Kiloton récents sont pas ouf non plus parce que les trois quarts des gens se sont fait débaucher pour créer Grid Games, donc bizarrement, les jeux sont pas ouf. Quoi.
On sait à cause de qui le jeu n'est pas une réussite, la réussite qu'il aurait dû être.
Évidemment. Et donc, ce que je disais, c'est que Big Bad Wolf. Et Big Bad Wolf est une antenne de Cyanide qui est installée à Bordeaux, mais qui est rattachée à Cyanide Nanterre. Et sachant que Cyanide est lui-même en redressement judiciaire. Ça, on en avait déjà parlé.
C'est la continuité du ruissellement.
C'est ça. C'est ça. Dans la vague de restructuration, après l'annonce de la fermeture de Spiders, donc le studio parisien de RPG, et du studio de motion capture Nacon. Nacon Tech, voilà. C'est donc Big Bad Wolf qui est sacrifié cette fois-ci. On parle de 46 salariés, sachant que les 46 salariés, le licenciement. Alors, c'est un peu particulier. Le licenciement des 46 salariés a été annoncé le 7 mai 2026. Si vous vous souvenez, le 7 mai 2026, c'était un jour un peu particulier pour Nacon. Vu que
c'était, on a fait une émission sur le sujet.
Voilà, c'était la Nacon Connect.
En plus.
Ce jour-là. Et donc, ça a été annoncé par Nacon aux employés de Cyanide, mais uniquement aux employés de Cyanide. pas aux employés de Big Bad Wolf ou de concernés. Et d'ailleurs, les employés de Cyanide avaient même interdiction d'évoquer le sujet avec celles et ceux qui travaillaient chez Big Bad Wolf. Ce qui met une sacrée ambiance quand même.
Bah, c'est quand même particulier, surtout qu'ils savent qu'ils vont communiquer.
Je me demande à quel point c'est légal. En fait.
Déjà, c'est une bonne question, mais même enfin, à quel moment à quel moment ça a du sens en fait de donner ce genre de consigne quand tu sais que ce ne sera respecté par personne et qu'au contraire en fait ça te fait passer pour encore plus pour un connard. Enfin, bref.
Non, c'est très franchement, enfin voilà, très étonnant. Donc on reste et bon pour rester aussi dans le sillage de Nakon et en redressement judiciaire et donc toutes les filiales en dessous en pâtissent. Donc on a eu le plan de sauvegarde de l'emploi, donc en gros le plan de licenciement. On a eu la disparition pure et simple pour Big Bad Wolf.
Et de Spiders.
Et de Spiders. Et de Nakon Tech. Et là, on a un troisième cas qui est Midgard Studio. En fait, qui est connu pour notamment le jeu Edge of Eternity, qui est un jeu très inspiré par les RPG japonais. Là, on n'est pas sur une fermeture annoncée, mais sur une déclaration de cessation de paiement le 26 mai dernier. Dire qu'un studio est en cessation de paiement, ça veut dire une chose très simple, la trésorerie ne suffit plus à payer ses dettes. Et dans 45 jours à partir du 26 mai, il faut déposer un dossier au tribunal et espérer qu'une procédure de redressement permette de sauver ce qui peut l'être. On rappelle qu'en tant que filiale de Nakon, c'est très important. En tant que filiale de Nakon, l'assèchement en fait de la trésorerie de Midgard Studio.
L'attrition naturelle. Non, c'est pas ça.
J'ai pas de preuve, j'ai pas le nez sur les comptes. Mm-hmm. Et forcément, c'est pas très transparent. Mais il y a une possibilité assez grande pour que l'assèchement de la trésorerie ait pu être organisé par la maison mère pour que cette maison mère puisse payer ses propres créances en retard, notamment au tribunal et à Nintendo.
C'est pas comme si c'est leur. C'était leur tactique et leur façon de gérer Cyanide, Spiders et tous les autres.
Voilà, donc c'est pour ça. Alors en gros, c'est pour ça que je mets plein de conditionnels, mais globalement, on sait que c'est ce qui s'est passé.
Ce serait quand même étonnant qu'ils n'aient pas fonctionné comme ça, voilà. Sur celle-ci en particulier.
Voilà. En tout cas, désormais, Nakon semble se désintéresser totalement du sort de la boîte montpelliéraine, vu que voilà, Midgard est à Montpellier, puisque depuis la Nakon Connect, donc le 7 mai dernier, il n'y a eu aucune communication sur le prochain jeu du studio, Edge of Memories, alors que sa démo est sortie lors du très récent Steam Next Fest. Donc, c'est sorti pendant Steam Next Fest. Je sais pas, vous étiez au courant de ça ?
Non.
Bah voilà.
Je l'avais vu passer qu'il était sorti, enfin que la démo était dispo, mais.
Voilà. Mais aucun support, rien sur nulle part. Donc c'est.
Voilà. Toujours été très très doué en communication.
Mais... Oui, non mais il y a une différence entre pas très doué et rien.
Oui.
Là, y a
on reparlera tout à l'heure de Spellcaster Chronicles, mais je vais pas spoiler l'avance.
Voilà, donc rien n'a été annoncé concernant les nombreuses filiales de Nakon. On pense notamment à Daedalic en Allemagne, mais si on doit rester en France, notamment à Echo Software à Paris et puis à Lyon à Pastèque Games.
Oui.
Mais quand on met.
Jamais évoqué pour l'instant.
Voilà, non, on a. Ouais. C'est pour ça que je dis rien n'a été annoncé, on sait rien, donc pas de spéculation.
Et si tu parlais de Cyanide, Cyanide a annoncé leur jeu Tour de France, etc.
Oui, oui, voilà.
Donc, un certain nombre de projets, malgré tout.
En gros, on n'en sait pas plus sur le redressement de Cyanide, en tout cas. Voilà, on sait. En gros, on savait que chez Kiloton, on sait que ça a résulté en un PSE. Chez Cyanide, on n'a rien. Donc, en gros, il faut, à moins de parler directement à l'administrateur judiciaire qui est lié au redressement, on peut pas trop avoir d'infos. Donc là, faudra voir peut-être du côté du STJV qui aura potentiellement les informations dessus. Mais quand on met bout à bout le PSE massif chez Kiloton, la fermeture de Big Bad Wolf après Spiders et Nakon Tech et la cessation de paiement chez Midgard, on sent bien que ces nombres de chocs qui traversent tout un réseau de studios français, le deuxième jusqu'à présent employeur en France, Nakon, en fait, était le deuxième employeur français en termes sur le jeu vidéo. Dans cette industrie, après Ubisoft. Et surtout que derrière chaque ligne de budget, en fait, il y a des équipes, il y a des projets, des histoires qui s'arrêtent. Voilà.
Mais du coup, il y a juste une dernière question que je me pose et que j'avais posée à l'époque des premières questions. Enfin, la logique de Nacon, c'était récupérer de l'argent pour payer ses dettes. Mm-hmm. Donc, de reprendre la confiance des investisseurs, puisque tout découlait d'un refus de prêt à la banque, à cause notamment de ce procès perdu contre Nintendo. Enfin, je reviens sur ce qu'on disait. Mm-hmm. Aujourd'hui, ils avaient comme intention, entre guillemets, de se débarrasser de studio, de licencier des gens, de réduire leurs coûts pour redevenir relativement fiable pour des investisseurs potentiels. Oui. Pour l'instant, je n'ai pas encore entendu parler que des investisseurs se sont dit « C'est bon, ils ont viré suffisamment de gens, on leur refile le pognon dont ils ont besoin pour plus être en redressement judiciaire. »
Alors, pour le
ça n'a pas évolué. Pour
alors, je ne sais pas. Alors, voilà, pour le coup, on ne peut pas savoir si ça n'a pas évolué. On se doute, vu l'image de Nacon ces derniers temps et vu leur dernier déboire public, c'est-à-dire que ça soit les annonces par rapport à leur déboire judiciaire face à Nintendo ou face à leur déboire bancaire tout simplement qui ont été très publics, que là-dessus si apport financier massif il doit y avoir, je pense que ça se fera dans le feutré et que on aura une annonce que quand ce sera vraiment bien fait, que ouais. Pour l'instant comme on l'avait dit on assainit, c'est-à-dire on vire plein de gens. Et il ne faut pas oublier hein, que, mine de rien, un PSE, ça coûte beaucoup d'argent. Surtout un PSE en fait, où tu vires quasiment 80 personnes. Mmh. Et ben, en fait, le truc, c'est que ça te fait économiser de l'argent à terme, mais pour le coup, oui, à la trésor, il faut que tu payes tout le monde, il faut que tu payes les indemnités de tout le monde, ça coûte un bras. Donc,
ça fait un gros trou d'un coup.
Voilà,
c'est pour ça que ce n'était pas une solution pour régler les problèmes d'argent dont ils ont besoin.
Je crois que tu es loin du micro.
Je suis loin du micro.
Ouais. Ah, oui.
C'est mieux.
Mais ce n'était pas une solution, quoi qu'il arrive, pour régler leurs problèmes d'argent qu'ils doivent donner à des gens. Donc c'est pour ça que l'objectif, quand on en parlait la dernière fois, c'était que ils reprennent en fait la confiance et qu'on leur redonne de l'argent
sachant que de toute façon il y a deux solutions hein. C'était soit en fait ils ont un gros apport d'argent d'un coup parce que les jeux marchent à fond et qu'il y a plein de gens qui les achètent et ils ont plein de sous, soit en fait il y a des gens qui disent cette entreprise elle est assez saine pour que j'investisse dedans, et investir dedans ça veut dire mettre assez d'argent pour rembourser les dettes actuelles.
Bon chance.
Voilà. Donc le truc c'est que malheureusement en fait vu l'état de redressement, enfin exactement comme on disait pour Cyanide, on attend ce que dit l'administrateur judiciaire, et ce qu'il faut voir aussi ce que dit l'administrateur judiciaire pour la maison mère directement. Mmh. Et déjà je sais même pas si c'est le même administrateur judiciaire pour les deux, et c'est pas dit.
À suivre donc.
C'est ouais. Pas dit. Tu veux aller sur Quantique ou tu veux que je parle de 10-12e?
Un petit mot sur 10-12e.
Ok, rapidement.
12-10e.
C'est vrai que j'ai dit 10.
Ouais, tu le.
Ah, j'intervertis aussi.
Ouais, c'est vrai. C'est 12-10e. Oui, c'est vrai. Je sais pas.
De toute façon, c'est 0%. Enfin, je...
Pardon, c'est 12-10e. Excuse-moi. C'est vrai que je dis 10-12e depuis le début. Pardon.
Qu'est-ce que c'est, 12-10e?
Oui, alors effectivement, on parlait d'histoire qui s'arrête et il faut qu'on évoque le cas de 12-10e, en fait, qui n'est pas un géant, un géant du triple A, c'est un de ces studios plutôt à petite taille qui font vivre le tissu créatif français. Des équipes réduites, des projets ambitieux, souvent narratifs et expérimentaux, et un quotidien fait de financements à chercher, de partenaires à convaincre, de planning à tenir. Bref, le genre de studio dont on aime parler en fait ici dans cette émission, quand on invite des gens, c'est plutôt ce type de structure dont on va parler, voire des structures plus petites, mais c'est plutôt ce genre d'interlocuteur que lorsqu'on va avoir des interviews dans cette émission, parce que oui, on ne fait pas que du Doom News
et du patron bashing.
On invite aussi des gens en fait à parler de leur travail avec enthousiasme. Et typiquement, alors ils sont absolument pas à Lyon, mais s'ils avaient été à Lyon, ce sont des gens qu'on aurait invités avec plaisir au vu de leur production et du pédigré du studio.
Pour ceux qui font pas le lien dans leur tête forcément, c'est ils ont sorti Mio récemment.
Oui.
Et avant c'était Shady Part of Me.
Oui, c'est le studio derrière Shady Part of Me, hein, en fait, c'était un petit jeu d'aventure plateforme j'ai mis en ombre et lumière, et j'ai barré, j'ai mis en clair obscur.
Tout pour les buzzwords.
J'ai pas pu m'empêcher.
Faudrait que je mette le hashtag, c'est ça.
C'est ça. Comme ça, il y a plein de gens qui vont dire « Ah, ils vont parler de, ils vont parler de Club Obscur !» Ouais. Et oui, en fait, déjà, à l'époque, Shady Part of Me avait été encensé par sa direction artistique et pour sa narration. Il avait été sélectionné au Pégase à l'époque aussi, et c'est aussi le cas de Mio, Mio, donc Memories in Orbit, un Metroidvania ultra stylisé, développé sur plusieurs années.
Très, très beau aussi.
Voilà, avec une esthétique atypique, une ambition créative, un jeu qui a été remarqué dans la presse spécialisée, qui avait déjà tapé dans l'œil lors de sa première présentation grand public dans un Nintendo Direct à l'époque, donc c'est pas rien non plus, donc ouais. Ça avait tapé dans l'œil de...
Ils en ont même parlé sur France Inter.
Oui. Oh wow. Ouais, non, mais c'était... Après, le truc, c'est voilà, il y a eu un très bon accueil critique sur sa direction artistique et sur son univers. Malheureusement, sa carrière commerciale a été décevante du point de vue notamment de Pull Up. Pull Up, c'est... J'allais dire anciennement Focus Entertainment. C'est un peu difficile, c'est un peu compliqué.
Ouais, ils sont sûrs à changer de nom tous les deux jours.
Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que Focus Entertainment, c'est beaucoup de choses. C'est un distributeur, c'est un éditeur, c'est un collectif de studios, c'est beaucoup de choses différentes. Bon, Pull Up, c'est le truc qui est censé être au-dessus. Sachant que Focus existe encore. Hein. Donc c'est un bordel.
Oui,
mais bon. Pour faire court, Pull Up, c'est la maison mère de plein de studios, dont 12 dixièmes. Et que Focus Entertainment, en fait, en gros, si vous ne voyez pas ce que c'est, en gros, c'est un éditeur historique du jeu vidéo français, et que si vous demandez d'où vient leur argent, pensez à Farming Simulator. Voilà, c'est...
Ça en fait partie.
Et l'année dernière, en 2025, Pull Up a fait une année record, marquée par le succès d'un jeu qui s'appelle Space Marine 2, qui a tout pété. Et ils ont fait des très très bons résultats. Le problème, c'est qu'en 2026, c'est pas la même, vu que le chiffre d'affaires a enregistré une baisse de 27% en un an et une perte nette du groupe s'élevant à 12,9 millions d'euros. Un recul qui s'explique que l'éditeur explique par des déceptions commerciales comme Toxic Commando, Starship Troopers et Mio. Malgré le très bon lancement notable d'un jeu qui s'appelle Absolum. Bon, ça n'a pas suffi pour que Supermonk survive, mais bon. Voilà, hein. C'est sûr. C'est encore un autre sujet parce qu'on va, rajoutons du Doom sur du Doom.
Tu name drop beaucoup de choses, mais j'espère que tout le monde suit.
Alors, pour faire simple, Toxic Commando, Starship Troopers, ce sont des jeux qui ont été faits par Pull Up, anciennement Focus Entertainment. Absolum est un jeu qui a eu un grand succès, un beat'em up avec des gens qui se sont où tu diriges des gens qui, je crois que c'était un voleur, un nain, un guerrier en fait.
Je connais la blague, elle commence comme ça.
Oui, c'est ça. Oui.
Tu rentres dans un bar. C'est... Bon.
Alors j'ai la même, mais non, c'est
non.
D'accord, on va arrêter.
Enchaîne.
Et en fait, voilà, et le jeu a bien marché. Malheureusement, c'était un jeu qui était fait avec aussi un studio d'animation qui fait toute la DA. Et puis toute la DA qui fait partie intégrante. Il y avait même un projet de série animée, de cross-média, etc., qui était porté par un studio qui s'appelle Supermonks, qui existe depuis 20 ans. Malheureusement, le studio n'existe plus parce que si vous pensez que le monde du jeu vidéo va mal, le monde de l'animation avec l'IA, oulala, c'est une catastrophe. Donc, le 18 juin dernier, l'éditeur a annoncé une décision stratégique importante. Pull Up a dit on fait une cession de l'intégralité de la participation dans le studio 12 dixièmes, pardon. C'est-à-dire que 12 dixièmes appartenait à, je crois, 75% à Pull Up. Ils ont dit, bon ben, on vous vend toutes nos parts et vous êtes un studio indépendant. Geoffroy Gardin, à l'époque, donc qui est toujours directeur général de Pull Up Entertainment, a dit à ce moment-là, aujourd'hui, 12/10e atteint un niveau de maturité et de solidité qui lui permet de poursuivre son ambition en toute autonomie. Cette évolution décidée conjointement permet à chacun de se concentrer pleinement sur ses priorités stratégiques. Donc ça, c'était le 18 juin. Le 23 juin, donc 5 jours plus tard, Chloé Voitier écrit un article dans Le Figaro profitant de l'événement du GameCamp, GameCamp qui fait se rencontrer beaucoup de professionnels dans l'industrie notamment, pour parler du climat qui est très tendu dans l'industrie du JV. Honnêtement, si vous avez entendu cette émission depuis une demi-heure, vous avez compris pourquoi. Et l'article mentionne explicitement la fermeture du studio 12/10e de la bouche même de ses dirigeants. Voilà, l'histoire de 12/10e, pardon, ça, et de Pull Up, c'est un bon résumé de ce qui se joue aujourd'hui dans le jeu vidéo français. On parle bien souvent des grands noms qui tombent, des groupes en redressement judiciaire, mais ce sont des studios à taille humaine qui encaissent le choc en premier. C'est en ce moment eux qui tombent, comme des mouches.
Ouais, complètement. Et puis, c'est des personnes qui, du coup, enfin, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, mais qui sont essorées mentalement et qui probablement sont dégoûtées de ce secteur, etc. Donc, on leur souhaite de rebondir, évidemment, mais je pense que psychologiquement, c'est très difficile. Ouais.
Ouais, y en a beaucoup qui partent du jeu vidéo, clairement. Hein. Mm. Pour, juste pour une anecdote assez... rapide. J'étais justement à l'AG local du STJV la semaine dernière, et il y a, enfin voilà, l'ambiance est assez morose, et il y a beaucoup de gens qui disent je suis encore dans le syndicat et tout ça, mais je réfléchis peut-être à partir du domaine du jeu vidéo, parce que c'est vraiment la merde.
Ouais.
Voilà. Et que t'as en ce moment, t'as quasiment plus de... t'as plus d'offres d'emploi, t'as très peu de dynamisme, c'est vraiment très très compliqué en ce moment, quoi.
Ouais, enfin tout le secteur est très compliqué à différentes échelles, et comme hier soir c'était le meet-up de Lyon Game Dev, et oui, exceptionnellement on est le premier jeudi du mois, mais je suis ici dans l'émission parce que le meet-up était hier, et je discutais avec un membre d'un studio qui justement a sorti son premier jeu et me disait non mais ça y est, la boîte elle est en train de couler là, donc voilà, donc t'as beaucoup beaucoup de justement de gens qui se disent plutôt que d'essayer de rejoindre des moyennes grosses entreprises qui font partie de plus grosses corporations, on va essayer de faire notre petit chemin en parallèle avec notre propre studio. Et en fait, il s'avère que après la sortie du premier jeu, tu n'arrives pas à rebondir suffisamment pour lancer la pré-prod d'un nouveau projet, et ça s'arrête là, quoi. Et c'est un schéma assez classique ces dernières années, quoi.
Oui, c'est un peu ce qu'on disait en antenne et en filigrane de ces dernières émissions, de ces derniers mois, que en gros, désormais, pour survivre, malheureusement, en fait, soit tu es un énorme studio AAA, limite 4AAA, en fait, qui a les reins nécessaires pour faire tenir une prod sur plusieurs années, et en fait tu as les finances en amont. Et par contre, si le truc ne marche pas assez, et quand je dis ne marche pas assez, s'il cartonne pas,
oui, c'est
de
ça.
Ouf, globalement, la sanction elle est claire, nette, le truc il ferme immédiatement, quoi, parce que le truc est trop gros pour rentrer dans ses frais. Et le seul moyen, en fait, pour que ça fonctionne, c'est vraiment des micro-équipes où on revient, genre dans les années 80, on est deux dans un garage, tu vois.
Ouais, non, mais c'est ça.
Enfin, en caricaturant, tu vois. Parce qu'il n'y a que comme ça, entre guillemets, où tu peux dire, en vivant des minimums sociaux et d'aide.
Ouais.
Où tu peux financer ton premier, et avec justement le succès même potentiellement relatif de tes premiers jeux, en fait tu peux continuer comme ça. Et
ouais, c'est ça.
Voilà,
je sais plus exactement, mais c'est une équipe de 6-8, quelque chose comme ça.
C'est déjà trop.
Et là ils ont fait des ventes en soi, ils sont contents des ventes qu'ils ont fait, mais ça leur permet pas de continuer à faire vivre le studio.
C'est ça. C'est vraiment, je pense qu'on va tomber sur du micro, quoi.
Ouais.
Romain,
il s'est assoupi, je crois. Non, pas du tout.
On n'est plus. pardon, on t'entend plus.
On se fait houspiller.
Oui, parce que du coup, j'attendais que vous finissiez. Parce que...
Ça y est.
Pardon. Pardon. Peux-tu nous parler d'un plus gros studio, s'il te plaît.
C'était un petit peu l'idée à la base de cette émission, de ce sujet de départ, effectivement, parce que il y a eu un événement qui s'appelle le Summer Grève Fest, qui a été lancé par un syndicat dont on parle régulièrement ici. C'est le STJV, donc le syndicat des travailleurs du jeu vidéo. C'était appel à la grève nationale le 25 juin.
Bah, c'est un peu le seul dont on parlera à chaque fois, parce que oui. L'autre, bon bah...
Bah, Solidaire Informatique fait de temps en
temps. Ah oui, c'est vrai, pardon.
C'est vrai.
Je pensais au SNJV que du coup, on parlera pas...
Je pense que j'aurais pas le temps, vu l'heure qu'il est, mais j'aurais pu en parler. Mais donc oui, le STJV a lancé l'appel à la grève nationale le 25 juin pour, bah, globalement, dans la continuité de tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure. Finalement, c'est cette situation dans le jeu vidéo français qui est totalement critique. Et ils ont donc voilà, ils envisageaient voilà plus de 1000 emplois menacés dans la situation actuelle entre celle de Nacon et celle de Quantic Dream. Quantic Dream, donc si je fais rapidement un petit retour sur qu'est-ce que Quantic Dream, c'est le studio français de David de Grutola, si on l'appelle par son vrai nom, qui avait donc fait The Nomad Soul à l'époque, Heavy Rain, Beyond Two Souls, et plus récemment, ça commence à dater, mais en fait, Detroit Become Human, qui est de 2018 en fait.
Son dernier énorme succès en fait. Oui.
Mais c'est le dernier jeu sorti, tout simplement.
Ah ouais, ils n'ont pas fait d'autres depuis.
Ils ont fait de l'édition.
Oui, c'est vrai.
De leur côté. En fait, je vais un peu vite. Ils ont fait un autre jeu, mais on va en reparler. Pour situer un petit peu le studio,
oui, pardon,
donc c'est un énorme studio français qui a eu donc le gros succès dont on parlait de Detroit Become Human, à peu près au même moment où les enquêtes de du Monde, Mediapart et Canard PC dénonçaient les conditions de travail au sein du studio, environnement toxique, environnement tout simplement, qui encourageait les comportements racistes, sexistes, agressions sexuelles, tout ce que tu veux. Bref, c'était une situation déjà compliquée qu'ils ont toujours contestée en justice à chaque fois en se faisant péter la gueule par la justice, enfin globalement. Donc voilà, un endroit où on a envie de travailler, de façon générale, qui donc a parfaitement réussi cette transition, puisqu'au moment où ils ont eu ce gros succès 2018, ça a attiré l'attention d'investisseurs. Un investisseur, par exemple, qu'on connaît un peu, dont on a déjà parlé aussi ici, qui s'appelle NetEase, qui est un énorme groupe chinois, qui a déjà énormément investi d'argent dans l'entertainment en général, dans beaucoup de studios. Mais là, c'était tout simplement un achat complet.
On a fait toute une émission sur le sujet.
En 2022.
Le rachat. Oui, et je crois que Bettina a encore un PTSD de l'émission en question.
Grave.
Et du coup, donc, NetEase, rachat à ce moment-là, quelques années avant, on avait déjà eu l'information que le gros projet de Quantic Dream, après donc Detroit Become Human, c'était un jeu Star Wars, donc quand même pas n'importe quoi, licence.
C'est vrai qu'il a annoncé depuis quasiment 5 ans, tu vois.
2019, les premières images.
Waouh, wow, ouais. 7 ans, punaise.
Et donc Star Wars Eclipse.
Ouais, ça sent pas bon.
Star Wars Eclipse, donc le projet en question, est donc en développement au sein de Quantic. Mais est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait un autre jeu en développement chez Quantic Dream, qui s'appelle Spellcaster Chronicles?
Ça me dit quelque chose.
Tu peux teaser le passé ou pas?
Oui et non. parce que j'en suis pas encore là dans la narration, mais bon, ouais, ça c'est pas le fini. Toujours est-il que donc, ouais, ce Spellcaster Chronicles, c'était un MOBA. Donc voilà, c'est les jeux à la League of Legends, Dota 2, enfin, voilà. Ce genre finalement de jeu en multi où les gens se foutent sur la gueule à plusieurs.
Un jeu très orienté gameplay qui est très loin du savoir-faire de Quantic Dream.
Ça a surpris tout le monde, Quantic étant un studio de jeux narratifs avec des acteurs de doublage et c'est ce que tu veux. Là, on partait sur un jeu vraiment à mécanique et un jeu compétitif. Je sais pas ce qui s'est passé en vrai. Qu'est-ce qui fait que absolument personne n'a communiqué autour de ce jeu? Il est sorti, je vais te dire ça en fait, en vrai, il est sorti. Je sais même plus en fait quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti
2025?
En fin d'année dernière.
2025.
Ouais, c'est ça, j'aurais dit en fin d'année dernière.
2025.
Tout simplement pour se péter la gueule, il y a 800 personnes qui y ont joué, à peu de choses près, parce que tout le monde s'en foutait, et surtout, ils n'ont fait aucune communication autour. Ils ont décidé de l'envoyer.
Ça reste dans les habitudes de communication de NetEase ces derniers temps, qui envoie ses différents studios casse-pipe, comme on l'avait dit dans l'émission la dernière fois.
Bah, quand ils veulent s'en débarrasser, c'est étonnant, en fait, quoi qu'il arrive, toute la structure et toute la logique qui a entouré le développement et même la sortie de Spellcaster Chronicles, elle est incompréhensible.
Non, moi je comprends vraiment pas les stratégies à chaque fois.
Le STJV a effectivement mis souvent l'accent sur l'incompréhension de tout le monde là-dessus.
Ça n'a aucun sens.
Le problème, en fait, c'est qu'actuellement, donc, il y a peu de temps, justement au moment où ils ont décidé de cette Summer Grève Fest, a été annoncé un plan social également du côté de chez Quantic Dream, parce que la direction se renvoie la balle avec Tencent au niveau de qui a la responsabilité de quoi. Mais toujours est-il que la décision est de licencier toute l'équipe de Spellcaster Chronicles, c'est-à-dire 115 personnes d'un coup.
Attends, il y avait 115 personnes sur le MOBA ?
C'est pas la question. Mais c'est une bonne question. Mais c'est pas la question.
Non, parce que, enfin, excuse-moi d'être étonné, mais.
On est d'accord. Il n'y en a pas un pour faire de la com.
Non, mais c'est un truc de baboule.
Ben non, mais je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Toujours est-il que 115 personnes, qui toutes, évidemment, notamment le STGV, évidemment, dénoncent les conditions dans lesquelles le jeu a été fait, les idées, le projet en lui-même qui était déjà mort-né au moment où il est sorti. Bref. Le problème qui se pose actuellement du côté de Quantic, évidemment, déjà les 115 personnes menacées par donc, ce PSE, avec l'intention donc de limiter la casse, évidemment, pour les syndicats et les personnes qui se battent pour ça. Mais ils ont un autre projet en cours, on l'a dit tout à l'heure, Star Wars Eclipse, pour lequel, selon le STJV, il y a un vrai problème aussi de main-d'œuvre, de quantité de personnes actuellement en cours, en train de travailler sur le projet. Et pour le STJV, je vais faire relativement court, ils avaient besoin, en fait, des compétences et tout simplement du nombre de ces 115 développeurs et développeuses qui auraient pu travailler et qui auraient pu être simplement transférés sur le projet Star Wars Eclipse. On leur dit, au niveau de la direction de Quantic, que c'est pas possible, que c'est pas des compétences transférables. Donc n'importe qui a déjà travaillé dans le jeu vidéo a envie de leur faire des doigts, on est bien d'accord. Donc voilà, c'est déjà effectivement ce que disait. Et effectivement, ils disent que c'est simplement pour essayer de sauver Star Wars Eclipse, qui actuellement est complètement en sous-effectif et ne travaille pas dans des bonnes conditions pour développer un jeu qui ira au bout finalement du projet. Attendez, je reviens juste sur ce que je cherchais. Il y avait évidemment des problèmes de gestion, de qui dit quoi, de qui dit comment, enfin une vraie déconnexion finalement avec la réalité pour finalement sortir un jeu qui n'était pas du tout dans l'air du temps et que les gens n'attendaient pas.
Ouais.
Donc c'est ça qu'ils voudraient aussi éviter, en fait simplement être écouté en tant que travailleur qui ont un minimum de compétences et même de vision là-dessus. Quand le STJV dit qu'ils ont des problèmes de sous-effectifs pour Star Wars Eclipse, ils ont besoin finalement de. Enfin, ils disent qu'ils ont besoin de ce soutien. Et dans l'état actuel des choses, les salariés de qui bossaient sur Spellcaster Chronicles ne sont pas encore licenciés. Et il y en a beaucoup qui disent qu'ils viennent une fois par semaine au boulot pour voir les collègues, mais ils n'ont pas de travail à faire.
Tu te souviens à peu près, c'est combien de personnes en tout avec les gens actuels
Quantique ?
Ouais.
Non. Mais ouais. Je crois que c'est dans les 600-700.
Ouais. Parce que déjà, enfin, déjà 115 personnes.
C'est monstrueux, hein.
115 personnes, c'est. Enfin, je pense que 99% des entreprises de jeux vidéo en France ont moins de 115 personnes.
Oui, donc, oui, oui, voilà. Effectivement. Ouais.
Je pense au-dessus. Enfin, voilà, des studios qui ont plus de 200 personnes, je pense que tu en cites 4-5 en France, ça a tout pété.
Hein. Ouais.
Mais du coup, on en avait parlé, hein, du désengagement de NetEase. Des studios, et notamment on avait parlé des studios occidentaux, mais également au Japon, avec le studio d'ancien créateur des Yakuza du côté de Ryuga Gotoku, qui avait normalement prévu de faire son jeu Gang of Dragon. NetEase s'est retiré du projet, et donc le studio vient simplement de fermer. Donc voilà, et effectivement, comme je disais, renvoi de balles entre la direction de Quantic et NetEase. On nous dit que cette décision dépend de NetEase, et ce que demandent les travailleurs, c'est faites venir NetEase, mais on leur dit non. Donc en gros, on les laisse sans aucune réponse correcte par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc effectivement, c'est pour cette raison qu'il y a eu ce piquet de grève, enfin en tout cas cette Summer Grève Fest annoncée avec un piquet de grève spécifiquement devant les locaux de Quantic à Paris dans le 19e. Donc il y avait également donc, des gens de Midgar que tu as cité tout à l'heure, il y avait des gens d'Amplitude, il y avait des gens de différents studios, il y avait aussi des gens d'Ubisoft, de Dontnod, qui va pas forcément très mieux.
Ouais,
et
non.
Ça, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans pas longtemps.
Ouais, je pense que Dontnod, on est en train de voir. Enfin,
ils sont en train de chercher du financement, mais on sait que normalement, dans pas longtemps, ils auront plus d'argent.
Non, donc, pour moi, on est plutôt en train de chercher un clou pour le cercueil, honnêtement. Hein. Là, c'est la fin.
Officiellement, ils cherchent à activer des leviers pour récupérer du pognon. C'est les termes qu'ils ont utilisés. Ça pue, hein, clairement. Hein,
mais oui.
En attendant, c'est pas encore terminé pour l'instant. Pour l'instant. Mais donc voilà, il y a eu effectivement une certaine solidarité autour de ce piquet de grève avec pas mal de travailleurs et de travailleuses qui sont venus discuter de la situation telle que tu l'as citée déjà, mais qui concerne également d'autres studios qu'on n'a pas encore cités et que dont Note c'était juste un petit name drop au passage. Toujours est-il que on est donc sur une situation vraiment très compliquée pour Quantic. On ne sait pas encore ce que ça va donner, parce que on a les infos qui viennent du STJV par rapport aux difficultés du développement du côté de Star Wars Eclipse. On sait que NetEase, ils sont actuellement en train de se dire « Et si on reprenait notre pognon pour aller le mettre ailleurs que dans les studios dans lesquels on a déjà investi ?» C'est une vraie bonne question. Et pourtant, ils ont un sacré projet derrière. Enfin, je dirais un jeu Star Wars, normalement, dans un monde normal, ça devrait déjà être un projet monstrueux sur lequel tu mets effectivement tous tes moyens. Et c'est ce que reprochent d'ailleurs les gens du studio à David Cage, pour ne pas justement prendre tous ses moyens pour les mettre dans un tel projet.
Bien sûr,
toutes les ressources à sa disposition pour la réussite du projet.
Les jeux Star Wars ont sauvé Respawn, en fait. Respawn,
par exemple.
Respawn qui allait mourir après les échecs de Titanfall, en fait. Et on leur a dit, faites des jeux Star Wars. Ils ont fait des énormes prods sur Star Wars. On pense qu'on veut des jeux, mais ils ont cartonné. Et ça, c'est les a sauvés, hein, clairement.
Mais si on revient sur le PSE spécifiquement du côté de Spellcaster Chronicles, du côté de Quantic Dream pour les développeurs et développeuses de Spellcaster Chronicles, un des arguments du STJV actuellement, c'est de déclarer ce PSE illégal.
Intéressant.
Puisque tu n'es pas censé, selon le fonctionnement d'un PSE, tu ne peux pas cibler une activité, une affectation sur un emploi ou sur un service dont la suppression est recherchée. C'est l'argument du STJV pour dire que ce serait illégal de choisir spécifiquement tous les travailleurs affectés à ce jeu pour les licencier. Il leur dit, c'est d'ailleurs une des personnes du STJV qui dit spécifiquement, nous avons dit de très nombreuses fois que cibler un projet spécifique dans le cadre d'un PSE, c'est illégal, manifestement illégal, et que la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ne validerait jamais le plan comme tel. Ils nous ont répondu qu'ils ne veulent pas toucher à l'équipe de Star Wars Eclipse pour ne pas désorganiser le projet. Mais comme le disent les personnes en interne, lancer le PSE a déjà désorganisé le projet.
J'ai déjà vécu ça en interne. Et,
en tout cas, ça va être un des arguments et un des chevals de bataille.
On va dire que ça se contourne facilement, malheureusement, en fait, en disant je ne cible pas ça, je cible certaines fonctions et basta.
Donc, après, il y a des échanges, il y a des écrits, il y a peut-être des choses qui peuvent être travaillées.
Bien sûr.
Toujours est-il que c'est justement là-dessus que les gens reprochent à David Cage de ne pas mettre tous les moyens à sa disposition pour la réussite du projet. Si on revient de façon un peu par la bande, vite fait pour terminer, un élément effectivement qui va nous rapprocher du SNJV. Il y a eu là, il y a quelques jours, une question au gouvernement de la part d'une députée, Danielle Simonet,
qui
est députée écologiste circonscription de Paris, d'une des circonscriptions de Paris, mais j'ai oublié laquelle, qui posait la question au ministre de l'Industrie concernant le crédit d'impôt aux jeux vidéo. Crédit d'impôt aux jeux vidéo qui permet à ceux qui le demandent en fait, de ne pas payer les mêmes taxes et les mêmes impôts sur leurs revenus, et en tout cas pour les aider finalement. C'est le même principe que tout, on peut appeler ça une niche fiscale, ce qu'on veut. C'est plein de moyens que le gouvernement peut avoir d'une façon ou d'une autre pour soutenir des branches de l'industrie. Et ce crédit d'impôt aux jeux vidéo, c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment maintenant. Et elle faisait la remarque, en fait, cette députée, que les sociétés de jeux vidéo récupèrent en fait des bénéficiaires de ce dispositif sans finalement que ça qu'il y ait une vérification et qu'il y ait une soit conditionné à un respect de certaines règles,
comme le CICE, quoi.
Ouais, ou tout simplement en fait des règles de pour ne pas licencier finalement, pas prendre le pognon public pour derrière licencier et en profiter des deux côtés. Enfin, c'est un peu le projet. Ce qui était intéressant, c'est que finalement c'est le SNJV qui a répondu le premier,
sachant que la question était
adressée au ministre du Travail.
Ouais.
Mais qui
donc
a répondu?
On attendait que ce soit au moins un membre du gouvernement.
Voilà. Sauf que qui est monté au créneau? Le SNJV, qui a changé de direction récemment, hein, qui avait été...
pas son nom au type. Hein.
Non, Lévent, mais j'oubliais son... Je savais le prononcer. C'est un nom que j'ai pas envie de... Parce que j'aime pas écorcher les noms. Ouais. Donc, il m'excusera. Mais le SNJV, en fait, on en parlait un petit peu dans ces échanges avec le STJV. Ils avaient déjà parlé pas mal de ça. Parce que, justement, au moment de la fermeture de Spiders, étaient ressorties des infos sur qui était la présidente anciennement du SNJV, Anne de Voissou, qui était également présidente de Spiders. Spiders qui a donc été fermée par, par Nacon, et c'était encore elle la présidente à ce moment-là. La pas la présidente du SNJV, mais la présidente de Spiders.
Et, sachant qu'elle était avant chez KT aussi.
Okay, oui, bah, hey, y a comme un pattern. Moi, je dis ça, bref. Elle n'est plus aujourd'hui à la tête du SNJV, mais à l'époque où elle l'était, elle avait visiblement plus d'intérêt à s'occuper du syndicat plutôt que de son entreprise, puisqu'au moment où de la présentation des comptes de l'entreprise chez Spiders il y a 2 ans ou 3 ans, ils avaient rendez-vous avec toute l'entreprise, le CSE, les syndicats, etc., pour parler de ça. Et il s'est avéré qu'en fait, Anne de Voissou n'était pas là. Elle était plus occupée, finalement, à être avec Emmanuel Macron au Maroc pour des projets d'ouverture d'école, bref, s'occuper finalement du côté SNJV de son activité. Donc c'était déjà quelqu'un qui ne s'occupait pas beaucoup de son poste d'employeuse au niveau de chez Spiders. Mais c'était une petite parenthèse.
Le cumul des mandats, c'est fou. Hein.
Alors là, en plus, si tu veux, c'est pas illégal d'être chef d'entreprise et d'avoir des mandats, d'avoir des délégations.
Pour le coup, on voit souvent des entreprises qui utilisent le même argument contre des délégués syndicaux qui ont des représentations nationales. On le voit très, très, très souvent.
Tout à fait. Mais du coup, donc, pour revenir au SNJV, qui est souvent plus prompt à se protéger lui-même et à se travailler... sa propre réputation qu'à défendre les travailleurs, est monté au créneau donc pour répondre à la députée. Alors la première chose qu'ils ont fait, c'est répondre à côté de la plaque. Je pense que clairement il y a pas d'autre façon en fait d'analyser le truc, puisqu'ils ont commencé par défendre le crédit d'impôt que la députée n'a jamais attaqué. Ouais. Elle a attaqué la façon dont il était validé, c'est-à-dire les conditions d'admission et de versement. Elle n'a jamais critiqué finalement le crédit d'impôt en lui-même. Elle a simplement dit, ce serait bien quand même que ce soit
de l'encadrer
un peu plus, derrière un minimum de respect de certaines règles et de vérification et de suivi finalement de à quoi sert le pognon. Bref, mais surtout ce qu'on peut se rendre compte, donc c'est comme tu le disais, c'est pas le ministre qui a répondu,
oui.
C'est le SNJV.
Et le SNJV qui reste sur sa doctrine habituelle, il ne faut pas contraindre les entreprises.
Exactement, c'est une phrase qu'on a tous entendu dire directement par Anne de Voissou à l'époque. Mais donc on est bien d'accord que le SNJV n'était pas là pour répondre à cette question, ils étaient là pour noyer le poisson, ils étaient là pour empêcher finalement de faire du bruit. Noyer le truc au milieu de rien.
Et surtout, on n'a pas eu de réponse du gouvernement.
Pour l'instant, en tout cas. La question est récente. Mais
okay.
Qui est arrivé en renfort? Est-ce que le ministre du Travail va prendre le temps de répondre, ou est-ce qu'il va considérer qu'avoir envoyé ses toutous du SNJV suffira à avoir répondu à la question?
Je ne pense pas qu'il a eu à les envoyer.
Oui, ils se sont envoyés tout seuls. Hein.
Je pense qu'ils se sont envoyés tout seuls.
Toujours est-il qu'on voit qu'effectivement, les pouvoirs publics ont un poids à travers le crédit d'impôt et aussi les financements du CNC dont on a déjà parlé aussi. Pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas l'intention de s'en servir pour protéger les emplois.
Oui.
Dans l'état actuel des informations dont on dispose, mais là, la situation, elle est exceptionnelle. Elle est même citée par la députée en introduction de sa question, pour justifier finalement sa question, la situation actuelle qu'on a évoquée plusieurs fois et que tu as évoquée longuement tout à l'heure. Voilà. La question, c'est... Alors, on n'est pas là pour dire que l'État doit absolument tout sauver les entreprises qu'on veut, mais il y a un minimum, en fait, simplement de mettre les chiffres en face des revenus, des moyens mis à disposition et la priorité qui devrait être la sauvegarde des emplois. C'est ça.
Et clairement, en fait, de façon totalement contre-intuitive, si vous voulez une bonne idée de... dans quel état est le monde du jeu vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo en France ces derniers temps, lisez le Figaro.
Malheureusement, on le dit, on le répétera jamais assez, mais désolé Chloé, on va te balancer. Tu es...
T'es la seule raison pour laquelle on peut lire le Figaro.
Tu es une infiltrée au milieu du truc, parce que tu parles de tech, et tout le monde est beaucoup trop vieux au Figaro pour comprendre de quoi elle parle,
mais
donc elle a le droit de dire ce qu'elle veut, elle dit des dingueries de gauche.
Mais oui, non, mais honnêtement, il y a des trucs, même au Figaro, ils disent calme-toi, Chloé.
Ils savent même pas qu'elle le fait.
Non, mais c'est une folie. En fait, en gros...
Tu te fais arrêter d'en parler, comme ça.
Ouais. Exactement, on va pas la balancer. C'est trop tard.
Mais en tout cas, voilà, cet article-là qui a été fait à la sortie du Game Camp est vraiment très intéressant. Et bon, la lecture va pas vous mettre en joie, mais par contre, elle est très instructive sur dans quel état sont les différents partie prenante en fait du jeu vidéo français ces derniers temps. Voilà.
Bon.
Eh ben, sur ces très bonnes news.
Voilà, on va aller faire la fête maintenant.
Voilà, hein, écoute.
Et ben, 2 semaines d'absence pour revenir là-dessus, bah, franchement.
On leur a pas demandé de foutre le bordel comme ça.
Eh ben, écoute, merci Bettina, mais écoute, propose une émission Joie et Bonheur pour la semaine prochaine.
Ah, ok, ça va être dur.
Voilà. Ouais. Donc, la semaine prochaine, on parle de la RAM. Et.
Et du prix de vos machines,
voilà,
soit des PC ou des consoles.
Ça va être super. Merci Romain.
Merci à toi Xavier, merci Bettina.
Et on se retrouve la semaine prochaine et on va essayer de trouver un truc un peu plus joyeux. Mais honnêtement, c'est pas garanti.
C'est pas l'ambiance.
Ouais, mais pas garanti. En tout cas, voilà, jouez à des trucs.
Oui, il faut jouer.
Oui, amusez-vous.
Voilà, amusez-vous et puis protégez-vous du soleil. Voilà. Allez, à la semaine prochaine, salut.
À bientôt.